Salut tout le monde, on est super content de vous avoir avec nous pour le message de cette semaine. Nouvelle Vie, c'est une église, trois sites et différentes plateformes qui vous permettent de rester connecté avec nous, peu importe où vous êtes. Vous pouvez nous suivre sur nouvellevie.com, Instagram, YouTube, Facebook et en podcast. On est présentement dans la série ADN où on étudie le livre de Jacques, le plus pratique et le plus applicable de tout le Nouveau Testament. Soyez bénis et bonne écoute.
Lorsque le gouvernement du Québec commence à réfléchir sur la dynamique intergénérationnelle, il ne fait que ils sont plusieurs millénaires en retard. La parole de Dieu, il y a des millénaires enseignés abondent avec un enseignement sur de génération en génération. Il y a plus de 200 fois dans la Bible où vous allez lire de génération en génération. Et bien avant que la psychologie moderne et la science moderne s'intéressent au phénomène et se mettent à comprendre les phénomènes tant d'hérédité que d'environnement qui ont un effet intergénérationnel, de génération en génération, que ce soit dans des familles, dans nos vies, même dans une société, la Bible enseignait déjà, la Bible enseignait que des valeurs, des notions, des convictions, des principes, des qualités, des dynamiques de vie essentielles, mais aussi des enjeux, des carences, des comportements, des ethos, des façons de penser et d'agir, sont en fait perpétués dans un continuum qui est intergénérationnel. Nous avons cette trentaine de leaders qui est ici ce matin. Combien croient qu'ils sont? Combien trouvent avec moi qu'ils sont magnifiques ce matin? Ces leaders Nouvelle Vie. Je vais travailler un petit peu avec vous et pour vous. Combien d'entre vous êtes célibataires? Levez votre main, affichez-vous ce matin, tous les célibataires. Alors, ils vont être dans le lobby à l'arrière à la fin de la réunion. Combien est-ce que de célibataires dans la salle? Combien est-ce que de célibataires dans la salle? Alors, nous prions pour des connexions divines ce matin à Nouvelle Vie. Ils sont impliqués dans toutes les sphères de notre vie d'église de génération en génération. Et lorsqu'on parle de cette dynamique intergénérationnelle, il y a plusieurs philosophies, vous savez, qui sont là, à plusieurs écoles de pensée à l'intérieur de l'église évangélique. Il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui préconisent, que nous devons on fait la même chose de la même façon, même si on n'a jamais eu de résultat auparavant. Il y a des églises et des mouvements d'église que depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de résultats. Et il y a cette espèce de pensée magique qu'on va faire la même chose de la même façon et avoir un résultat différent. Et c'est faux. Il y a une autre pensée qui est importante pour nous d'assimiler. Ceux qui pensent parce qu'il y a une mesure de fruits dans le passé. Si on reste fidèle exactement et seulement dans ce qui a porté fruit hier et qu'on continue ça aujourd'hui, on va avoir le même résultat. Et ça aussi, c'est faux. Il y a des choses à lesquelles on doit s'attacher, on va en parler ce matin, qui sont immuables, mais la parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit continuellement, les choses anciennes se sont accomplies et voici, je vous en annonce de nouvelles. On ne peut pas seulement faire ce qu'on a fait hier, il est le Dieu du aujourd'hui et sa miséricorde, sa bonté, son action se renouvelle à chaque jour. Il y a ceux qui disent, à cause de ça, il y a des extrêmes qui balancent dans le monde évangélique pour essayer de rejoindre les générations. On force une espèce de point final, une élimination. On évacue tout ce qui était hier. Faut tout évacuer, puis rien de bon à hier. Ça, c'est faux. Parce qu'il y a des trésors qui sont immuables, qui doivent transcender toutes nos modernités. Il y a aussi ceux qui croient que nous devons focaliser sur un seul segment. un seul segment de la société. Il y a, que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit verbalisé ou simplement vécu, une espèce de résignation, il y a plein d'églises qui se... La pensée, c'est, on va essayer seulement de garder nos 50 ans et plus heureux, ceux qui ont toujours été là, on va juste faire pour eux et ainsi perdre des générations et des générations et des générations. Il y a aussi ceux qui croient, on va aller à l'autre extrême, on va seulement aller, nous, on fait tout pour les 18 à 25 ou les 18 à 30. Et je pourrais prendre 2 heures, on l'enseigne dans les cours de théologie pastorale pour vous expliquer pourquoi ceux qui vont dans cette philosophie-là vont frapper un mur, qu'on ne peut pas bâtir une église à long terme avec un fruit durable, avec seulement une génération. La pensée de Dieu, c'est que vous communiquerez de génération en génération. Des gens sont sauvés dans chaque génération, transformés dans chaque génération, impliqués dans chaque génération et communiquant dans chaque génération. Quelqu'un devrait dire « Amen » dans chaque génération ce matin. Alors, il y a ceux qui ont toutes ces différentes idéologies, et nous croyons que la parole de Dieu enseigne que si nous fusionnons toutes les richesses, principes, valeurs, expériences immuables de la génération d'hier et d'aujourd'hui avec l'énergie, la créativité, l'appel, le dynamisme de la génération d'aujourd'hui et de demain, nous allons communiquer aux générations futures. Et présente. C'est intéressant que, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, que l'Église Nouvelle Vie a commencé avec un groupe. Les leaders étaient un groupe de vingtenaires et de trentenaires. Dans la vingtaine et dans la trentaine, le pasteur venait d'avoir 31 ans, mon premier pastorat. Mais ce qui était particulier du tout début et qui a été maintenu pendant toutes ces années, c'est que même au début, avec un groupe de jeunes qui avons débuté l'Église, il y avait un apport, il y avait une congrégation, il y avait des leaders de toutes les générations. Et aujourd'hui, en 2020, il y a un mouvement où ces jeunes leaders siègent maintenant dans toutes les sphères de Nouvelle Vie, sur chaque comité d'administration, dans les comités de direction, dans les équipes pastorales, à la tête d'organismes, de partenaires, de départements majeurs. Pas seulement comme exécuteurs, comme décideurs, comme stratèges, comme influenceurs dans l'Église, comme enseignants, comme prédicateurs, comme administrateurs, comme développeurs, comme pasteurs, comme dans la louange, dans l'adoration, dans la musique, dans les médias, avec les familles, dans les groupes. Ce matin, je veux aller dans la congrégation et dire à chacun de ces jeunes leaders qui représentent plusieurs centaines d'autres, nous avons besoin de vous. Vous êtes précieux, vous êtes importants, nous ne pouvons pas bâtir une nouvelle vie sans vous. Et toute l'Église derrière moi, avec tout le monde ensemble, ouvrez les bras, tout le monde ensemble. Nous vous ouvrons les bras, on veut servir avec vous. Et Seigneur, répands ton onction sur ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, alors qu'ils vont te servir, non seulement parce que nous les accueillons, mais nous les appuyons, nous prions pour eux, nous les élevons devant toi, et nous croyons que de ce groupe représentant ces centaines de jeunes adultes, nos pasteurs du présent et du futur, nos leaders, nos créateurs, nos innovateurs, nos missionnaires vont émerger pour toucher cette génération dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit un grand amen. Et est-ce qu'on peut leur donner une ovation? Thank you! Thank you! Merci. Alors qu'ils retournent à leur place. Merci. Chacun d'entre eux, comme David, désire servir les desseins, la volonté, les plans du royaume de Dieu dans sa génération. Le concept, la vision de Dieu dans la pensée, l'intention et la dynamique relationnelle du royaume qu'on trouve dans la parole de Dieu, ce n'est jamais un processus successif. Lorsque vous lisez « Une génération s'en va et l'autre arrive », comme dans les psaumes, alors on voit ça plusieurs fois de génération en génération, ce n'est pas une génération qui finit et l'autre commence. C'est successif, c'est en simultané et c'est en synergie. Alors que toutes les générations sont ensemble à servir le Seigneur. Ce n'est jamais chronologique, c'est jamais une qui part et qui termine, l'autre qui arrive. C'est une communion, c'est une continuité, c'est une communauté. Ce n'est jamais accidentel, c'est toujours intentionnel. Les églises qui pensent que ça s'est fait tout seul ont perdu les générations. On a besoin d'être intentionnel dans ce travail, dans cette œuvre, dans cette ouverture à incorporer toutes les générations. Ce n'est jamais automatique. C'est toujours alors que chaque personne répond à l'appel. David a servi les plans et la volonté de Dieu, des royaumes de Dieu dans sa génération. C'est chacun d'entre nous qui reçoit un appel, des plus âgés ou plus jeunes qui répondent. Ce matin, ces jeunes représentent, nous prions, et ça fait des années que nous prions pour encore plus et on est dans l'accomplissement maintenant, représentent des jeunes adultes qui viennent entrer dans la vie de l'Église comme jamais pour venir servir de tout leur cœur. C'est extrêmement important parce que l'ADN de l'intention de Dieu pour l'Église, à partir des prophètes de l'Ancien Testament qui annonçaient 700-800 ans auparavant la naissance de l'Église chrétienne, Dieu voulait que le premier message que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, qui a donné naissance à l'Église chrétienne, c'était l'accomplissement dans Actes chapitre 2, les versets 8, 16 et 18. Il y a un miracle qui a pris place, il y avait un pèlerinage, il y avait des milliers de Juifs de toutes les nations en pèlerinage religieux. Et lorsque les 120 dans la chambre haute sont remplis de l'Esprit, ils sortent à l'extérieur, ils se mettent à prêcher, à proclamer, à louer, à adorer Dieu devant la multitude qui est ébahie. Et il y a un miracle qui prend place, qui est très symbolique, significatif, important. La Bible nous dit qu'ils se sont mis à déclarer la grandeur et les miracles de Dieu, à proclamer Dieu dans des langages qu'ils n'avaient pas appris. C'était miraculeux, c'était unique, et les gens les entendaient chacun dans leur langue. Et comment les entendons-nous, se sont-ils demandés, dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Mais c'est ici ce qui a été prédit, dit, annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront. Les jeunes auront des visions. Les aînés auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Chacun l'entendant dans sa propre langue, c'est à l'intention de Dieu qui dit « Mon message, mon évangile va aller dans toutes les nations, sans discrimination, sans favoritisme, tous égales en importance devant Dieu. Toute nation et toute génération. » Vous avez remarqué? Les jeunes vont être remplis d'esprit. Les jeunes vont avoir des rêves. Les plus jeunes, les plus âgés vont avoir des songes. Toute nation, toute génération va participer à cette œuvre miraculeuse. C'est l'intention de Dieu, de génération en génération, toute nation, toute génération, toute classe sociale. Lorsque nous lisons « Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront », pour nous, c'est rien, mais c'était une société où l'esclavage était prédominant, était partout. Et c'était un choc pour les propriétaires des esclaves qui n'accordaient aucune même valeur humaine à leurs serviteurs, que Dieu disait « Non, il n'y a pas de classe sociale dans mon Église, il n'y a pas de grand, de petit, de riche, de pauvre. Chacun va être utilisé par mon esprit, va être rempli de moi. » Et chacun vont prophétiser. Et je déclare, et j'appelle, et je crois que des gens de tous les âges doivent avoir droit de parole, droit de leadership, droit d'implication dans la vie de l'Église. Je déclare que les jeunes à Nouvelle Vie dans cette prochaine décennie vont avoir des rêves et des visions. Les jeunes de tous les âges vont avoir des songes. Et ensemble, poussés par l'Esprit, nous allons bâtir son royaume de génération en génération. C'est pour ça qu'il y a quelques années, je pense que c'était 2 ans avant notre 25e anniversaire, 3 ou 4 ans, dans un temps de jeûne et prière, alors que je voyais le 25e et avec tellement de reconnaissance, d'action de grâce, de gratitude, tout ce que Dieu avait fait, et un premier quart de siècle qui approchait, j'ai été percuté dans le temps de jeûne comme à différents moments dans la vie de notre Église avec une parole qui était importante pour la suite. Une parole que le Seigneur m'a donnée, qui est devenue, maintenant que tous les leaders de Nouvelle Vie connaissent, qui est devenue une pierre angulaire de notre vision, de notre intentionnalité de génération en génération. Et c'était Jésus qui parle, et il parle à celui qui enseigne, il parle au scribe, il parle au chef de la maison, au leader qui connaît le royaume de Dieu, qui comprend comment le royaume fonctionne. Et dans Matthieu 13, 52, Jésus leur dit, « C'est pourquoi tout scribe ou enseignant instruit, celui qui est sage, celui qui connaît, celui qui comprend, ce qui concerne le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. » Ce qu'on appelle maintenant dans tout le langage de leadership Nouvelle Vie, des trésors essentiels et des trésors nouveaux. Et Dieu me mettait très clairement qu'il y avait des trésors essentiels à lesquels on doit, qui ne doivent jamais nous être volés par la modernité. Que quel que soit le 21e siècle qui est devant nous jusqu'à ce que Jésus revienne, il y a des choses qui sont des trésors essentiels qui sont là. Les trésors essentiels sur lesquels le royaume de Dieu et l'Église a été bâti, une nouvelle vie a été bâtie. Le jeûne, la prière, la passion, la pureté, l'intégrité, la droiture, la justice, les quatre C de nouvelle vie, la croissance par le connaître, connecter et contribuer. Le pardon, la parole, sa présence, la louange, l'adoration, la générosité, la passion des âmes, la recherche de justice, notre ADN intergénérationnel, les trésors essentiels qu'il faut conserver, puiser des trésors essentiels. Mais ce n'est pas seulement des valeurs, c'est des personnes. Que cette Église est bâtie, a été bâtie depuis 27 ans par des champions du monde, du royaume de Dieu, des hommes et des femmes avec une foi extraordinaire, une unité, une maturité, une passion. Cette semaine, le monde du hockey a été attristé par le départ de Henri Richard, un des derniers grands des dynasties canadiennes de Montréal. Henri Richard a gagné 11 championnats. C'est un record qui ne sera jamais égalé. Il y avait 11 coupes cette année. Il n'y avait pas assez de ses 10 doigts pour les 11 coupes qu'il a gagné. Et je regardais tout ça cette semaine et il y a quelque chose qui bouillonnait dans mon cœur. Le Canadien de Montréal, savez-vous, c'est quand la dernière fois qu'on a gagné une Coupe Stanley? En 1993, l'été qu'on a commencé une nouvelle vie. C'est la dernière victoire du Canadien, mais combien savent que Nouvelle Vie remporte des championnats pour le royaume de Dieu à chaque année? Et lorsque je regardais à Henri Richard, il y a quelque chose qui montait dans mon cœur. Il y a des gens qui sont ici dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, mais aussi cinquantaine, 60, 70 et même 80 et plus, qui depuis 27 ans remportent des victoires pour le royaume de Dieu. Vous qui avez bâti l'Église, cette Église d'influence pour le Québec et la francophonie, ce matin, je veux qu'on s'arrête et que nous honorions les piliers, les fidèles, ceux qui ont bâti le royaume de Dieu. Vous pouvez faire mieux que ça. J'aimerais que vous leur donniez une ovation ce matin. Le maître de la maison qui comprend comment le royaume de Dieu fonctionne, c'est puiser, garder, protéger le trésor ancien, les trésors essentiels. Mais aussi, il doit ouvrir la porte. Il doit ouvrir aux trésors nouveaux, aux personnes de nouvelle génération, à la direction de Dieu. Nouvelles méthodes, mais le même message. Nouvelle communication peut-être, mais la même consécration à Christ. Nouveau paradigme pour de nouvelles percées. Mais la même parole, la même passion pour Jésus. Nouvelles équipes, mais le même éthos, la même Église que Jésus bâtit. Nouveaux apprentissages, mais la même attitude, le même attachement, le même amour à Jésus, à sa parole, à son esprit, à sa présence. Nouveaux univers médiatiques à conquérir, mais la même unité dans le ministère. Nouvelle auteur, une nouvelle page de notre histoire. Mais la même humilité, une nouvelle génération, mais la même générosité de cœur et surtout la même gloire. Parce que dans ce lieu, aucun autre nom ne reçoit la gloire que le nom de Jésus de génération en génération. Est-ce que vous pouvez élever et acclamer son nom avec moi ce matin? Alors, l'apôtre Paul, dans un enseignement intergénérationnel magnifique, les commentateurs, les historiens sont assez d'accord pour préciser que Paul est dans la soixantaine, fin de la cinquantaine ou soixantaine. À ce moment-là, les hommes vivaient beaucoup moins vieux, et les femmes aussi, qu'aujourd'hui. Il était un père dans la foi et il écrit, il est inspiré par l'Esprit à écrire, à décrire et à rappeler l'ADN intergénérationnel alors qu'il écrit à un jeune homme Timothée. La plupart des commentateurs, des historiens considèrent que Timothée était dans la jeune vingtaine. Et par les écrits, ça va prendre quelques minutes pour lire les deux épîtres, les deux lettres cette semaine. Vous allez voir tous les combats que Timothée avait, toutes ses insécurités, toute sa jeunesse qui est flagrante. Mais Paul va nous rappeler, va nous enseigner, va nous proclamer ce matin ce qu'on doit s'emparer. C'est qu'un ADN intergénérationnel, notre ADN intergénérationnel, c'est un ADN qui doit se renouveler, qui doit être reproduit de génération en génération. Paul, apôtre de Jésus-Christ, c'est ainsi que les deux lettres commencent. Par ordre de Dieu à Timothée, chapitre 1, verset 1 à 5. à mon enfant légitime, à mon fils dans la foi légitime, je te rappelle les encouragements que je t'ai faits lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse avec ma vision et mon but pour toi, qui est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. L'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, c'est le commandement de Dieu et c'est l'ordre divin. C'est ainsi que le royaume de Dieu avance dans l'ordre divin. Et l'ordre de Dieu de notre ADN, nouvelle vie apostolique biblique, n'est surtout pas de seulement développer plus de ministères, plus d'églises, plus de départements, plus de projets, plus de bâtiments, plus de budget. Et il est ultimement de développer des gens. Développer des personnes. Selon l'ordre de Dieu, je me suis débarrassé en toi. L'apôtre Paul dira, un peu plus tard, il dira, vous savez, vous avez beaucoup d'enseignants, mais vous avez peu de pères. À mon enfant, Timothée, le père. Et c'est une heure importante pour renouveler au cœur de l'Église Nouvelle Vie l'appel de chacun à être plus que juste quelqu'un qui enseigne ou quelqu'un qui témoigne, mais à être un père, à être une mère, à être un grand frère, à être une grande sœur, à être un coach, à être un mentor pour ceux qui en ont besoin. L'ADN intergénérationnel, c'est plus que de l'information ou de l'instruction. C'est pas juste d'instruire ou d'informer. Et ce n'est surtout pas de l'isolement générationnel où il y a la gang des plus vieux et la gang des plus jeunes. Et ce n'est surtout pas non plus une espèce d'intimidation générationnelle. Où les plus jeunes intimident, les plus vieux ne veulent rien savoir de vous, les plus vieux intimident, les plus jeunes. Il y a des milieux évangéliques où ceux qui sont plus vieux sont d'une telle résistance à écraser ceux qui sont les plus jeunes. Mais l'ADN intergénérationnel, c'est plus que de l'instruction ou de l'information, c'est l'investissement intentionnel, une incarnation inspirante d'hommes et de femmes qui disent « J'ai un appel sur ma vie à me déverser dans quelqu'un afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. » C'est l'apôtre Paul qui dit littéralement, il a dit à Timothée, je te rappelle l'encouragement, comment je t'ai défié à t'engager. Au-delà de son ministère public, au-delà de ses écrits, de ses prédications, de ses enseignements, Paul avait compris que le royaume de Dieu intergénérationnel, il défiait continuellement Timothée d'une manière personnelle à s'engager. Alors la question de l'esprit pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est est-ce que, comme croyant, tu défies quelqu'un à marcher avec Dieu? Est-ce qu'en ce moment, il y a quelqu'un dans lequel tu te déverses? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église que tu as pris à cœur, que tu te déverses, que tu défies à marcher avec Dieu? Pas seulement, l'objectif de la vision ce matin n'est pas de recruter quelques bénévoles de plus, c'est tellement plus profond que ça. L'apôtre Paul n'était pas seulement « j'ai besoin de quelques serviteurs de plus », il avait une vision qui était au-delà de la tâche à accomplir. Il dit « ma vision pour toi, Timothée, j'ai une vision pour toi, je t'ai engagé, je t'ai défié à t'engager, parce que ma vision, mon but pour toi, c'est un amour d'un cœur pur, c'est une bonne conscience, c'est une foi sincère. » C'est littéralement, la question est aussi de l'autre côté. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie que tu as laissé parler dans ta vie? Est-ce que tu es un solitaire du royaume? Est-ce que tu es un touriste à la croix? Est-ce que tu es un consommateur seulement? Ou est-ce que tu es prêt à ouvrir ta vie pour te déverser dans quelqu'un? Il y a quelque chose qui est puissant que l'apôtre Paul souligne aussi, c'est que notre ADN intergénérationnel, il est renouvelé, il est reproduit pour des gens même qui ont grandi dans la foi, qui ont besoin, au-delà de l'influence familiale positive qui peut avoir pris place, ils ont besoin d'un mentor, a besoin. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, dans 2 Timothée 1, 5 et 6, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. Mais moi, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Dès ton enfance, tu connaissais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » C'est fascinant parce que c'est la même réalité que nous vivons aujourd'hui. Timothée avait grandi avec une grand-mère qui croyait en Dieu, avec une mère qui croyait en Dieu, connaissait les Écritures, mais il avait besoin d'une influence autre que celle de la famille pour venir parler dans sa vie, pour venir ranimer le don de Dieu. Ce qui a été reçu comme conviction a besoin d'être ranimé. Ce qu'ils connaissent doit devenir des convictions. tous les parents qui ont eu des enfants qui ont grandi dans l'Église et qui ont eu la bénédiction comme nous avons eu, particulièrement avec nos filles, avec notre fille. En particulier, il y a des femmes dans l'Église qui étaient juste quelques années plus âgées, qui étaient des sœurs, qui se sont déversées dans notre fille. Et c'est souvent, parfois, jamais frustrant, mais toujours stupéfiant, par exemple, de voir notre fille revenir. Comment ça s'est passé? Il y avait un GI, un groupe, il y avait une grande sœur qui est là, qui partage et qui se déverse en elle. Et là, elle nous expliquait ce que cette jeune femme-là leur avait dit. Ah, c'est tellement bon lorsqu'elle a dit ça. Puis c'est tellement vrai lorsqu'elle a dit ça. Puis je trouve vraiment que toutes des choses que ça fait 15 ans qu'on dit. Mais c'était tellement génial parce que c'était pas nous qui le disait. Je veux dire à tous les parents qui sont ici et je veux dire à tous les jeunes qui sont ici, c'est une des plus belles choses qui peuvent prendre place dans une église comme la nôtre. Ce n'est pas de venir et simplement spectateur et repartir, mais de comprendre qu'on a tous un rôle à jouer, d'être un grand frère, d'être une grande sœur, d'être un père, d'être une mère, de se déverser dans quelqu'un, de ranimer le don de Dieu, la connaissance qu'ils ont reçue. Notre ADN intergénérationnel, ce n'est pas seulement les plus vieux, les pères, les pôles qui se déversent dans les plus jeunes, qui sont des récipients perpétuels. Oh non. Et il dit à un jeune homme, Timothée, très jeune en âge, très inexpérimenté, il lui dit, non, notre ADN, il doit être renouvelé et il doit se reproduire. Toi donc, mon enfant, Timothée, 2 Timothée 2, 1 et 2, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi, ce que tu as vu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-le à des hommes, à des femmes fidèles qui vont être capables de l'enseigner à d'autres. C'est ce qui a fait de nouvelles vies. L'Église où il y a eu le plus d'hommes, de femmes, de serviteurs de Dieu, de pasteurs, de leaders, de ministères dans toutes les sphères de l'œuvre de Dieu, qui a produit tout ce fruit d'hommes et de femmes, c'est cette simple dynamique où chaque personne comprend. Et même les plus jeunes, je veux parler, les dizaines qui sont ici représentent des centaines de leaders dans notre Église. Vous êtes dans la vingtaine, vous êtes dans la trentaine, vous avez un accès, un mandat, une crédibilité particulière de vous déverser dans les plus jeunes. Dieu vous appelle, vous, à avoir ce mentorat, ce déversement. Je défie chaque bénévole, chaque croyant, quel que soit votre degré de maturité ou d'ancienneté de l'Église actuelle, à mobiliser, modeler, motiver, mesurer et multiplier dans tous les départements. Imaginez, et tous les âges, imaginez si chaque personne qui travaille, œuvre au stationnement, chaque personne à l'accueil, chaque personne en régie, chaque personne en musique, chaque personne auprès des enfants, chaque personne en bénévolat, quel qu'il soit, que chaque personne dirait à cette prochaine année, je ne vais pas seulement faire mon service, mais il y a quelqu'un que Dieu va me mettre sur mon chemin, je vais me déverser dans quelqu'un, je vais développer quelqu'un pour l'avancement et la multiplication du royaume de Dieu. Et non seulement partager ce que nous faisons, mais partager qui nous sommes. Ce qui est le plus puissant, une des choses les plus puissantes que Paul a fait, au-delà de partager le ministère, c'est qu'il a partagé sa vie, sa conscience, ce qu'il avait traversé. 2 Timothée 3, 11 à 14. « Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, mais aussi ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour et ma constance même à travers mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Mais le Seigneur m'a délivré de tout. Sois, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. » L'apôtre Paul fait quelque chose de tellement magnifique. Il dit, c'est au-delà de mon enseignement, je t'ai partagé ma vie, Timothée. Je t'ai partagé les choses que j'avais traversées. Je vais vous dire ceci. Une des forces négatives, les plus destructrices, les forces les plus maléfiques pour éloigner les jeunes générations du royaume de Dieu, c'est des leaders qui disent quelque chose mais ne le vivent pas. Mais une des forces les plus puissantes, les plus attirantes, les plus belles et les plus multipliantes du royaume, c'est l'apôtre Paul qui dit, tu as entendu mon enseignement, mais tu as vu ma vie, même à travers ma souffrance. Dieu nous appelle, l'intergénérationnel, c'est nous qui nous déversons, qui avons un sens de responsabilité, non seulement dans « am I talking the talk, but am I walking the walk? » Est-ce que je parle seulement ou est-ce que ma marche correspond? Pas seulement dans mon enseignement, mais l'exemple que j'ai à donner. Pas seulement dans mes communications, mais ma conduite, ma constance, pas seulement dans les responsabilités de ma tâche, mais la résilience, le relâchement des offenses devant Dieu. Pas seulement dans ma participation ou mon service, mais même à travers mes peines, à travers mes souffrances. Et il va dire à Timothée, regarde tout ce que j'ai traversé, toutes les souffrances, mais le Seigneur, pas seulement dans le travail du ministère avec Dieu, mais mon témoignage avec Dieu. J'ai traversé tellement de souffrances, mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Il y a quelque chose de tellement puissant à un leader qui ne fait pas seulement dire « Voici comment on va être placé, voici comment on passe la communion, voici comment on est à l'espace bienvenu, voici comment on fait la technique à la régie », mais qui déverse sa vie et qui dit « Dieu a été fidèle envers moi. Tu ne sais pas tout ce que j'ai traversé, mais Dieu m'a délivré de tout et peut le faire dans ta vie à toi aussi. » Quelqu'un devrait dire oui. Est-ce que quelqu'un ici a le même témoignage? « Ah, j'ai connu les souffrances, mais Dieu m'en a délivré de tout. » Toi demeure sachant de qui. J'ai été bouleversé par cette pensée-là toute la semaine. Sachant de qui tu les as apprises. Alors, une question importante pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Nouvelle Vie qui peut dire, c'est de lui que je l'ai appris? Timothée disait, si tu demandais à Timothée, c'est des choses que tu as apprises, de qui tu les as apprises de Paul? C'est déversant à moi, il a pris le temps, il m'a écouté, il m'a montré, il m'a enseigné. Est-ce que tu es chrétien depuis des années? Et il n'y a personne dans cette église qui peut dire « c'est de lui que je l'ai appris ». Et aussi, dire ceci à chacun d'entre nous, et surtout aux plus jeunes, est-ce que tu as quelqu'un en ce moment que tu peux dire « c'est de lui que j'ai appris ». C'est de elle que j'ai appris. J'ai ouvert ma vie à quelqu'un. Je ne suis pas seulement un solitaire, un isolé qui vient à l'église et qui écoute personne. J'ai ouvrir ma vie. Et quelle image! Regardez cette vision avec moi spirituelle. Imaginez-vous tous les pères et les mères dans la foi. Imaginez-vous toutes les vingtenaires et les trentenaires qui se déversent dans des plus jeunes. Et sur un an, deux ans, cinq ans, dix ans, si le Seigneur tarde sa venue, toute une génération qui dit, c'est de lui que j'ai appris à prier. C'est de elle que j'ai appris à aimer. C'est de lui que j'ai appris à louer. C'est de elle que j'ai appris à m'offrir à Dieu. C'est de elle que j'ai appris que quel que soit ce qu'on traverse, celui qui est en nous est plus grand et Dieu nous donne tout le temps la victoire. Vous devriez dire oui. Cet ADN de se déverser dans la vie les uns des autres est seulement possible, l'ADN de renouvellement et qui reproduit la nature de Dieu les uns dans les autres. Il est seulement possible alors que nous avons aussi un ADN qui se rapproche. On ne peut pas faire ça juste de loin, à faire notre service, nos ministères, à retourner chez nous, revenir. Il y a un rapprochement qui doit prendre place. L'apôtre Paul, en 1 Timothée, chapitre 1, et au verset 12, il commence en parlant du ministère. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a jugé fidèle. Il m'a établi dans le ministère. » Mais il n'arrête pas là. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu la miséricorde. Parce que je ne savais pas, j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. » Verset 15. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis. » La traduction en français, c'est « dont je suis le premier ». L'essence dans le grec, c'est « dont je suis le pire ». Je suis le pire. « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier, le pire. » Toute sa patience et tout son amour, la longueur dans le grec, la longueur de sa patience et de son amour pour que je serve d'exemple. Pour que je serve d'exemple. L'apôtre Paul n'est pas seulement en train de parler du ministère. Voici comment on prêche, voici comment on chante, voici comment on dirige, voici comment on fait les médias sociaux, voici comment on sert, voici comment on fait l'espace bienvenu, comment on s'occupe de... Non, c'est pas juste dans la dynamique ministère. Il a l'humilité d'ouvrir sa vie. Et de parler, de raconter ce que Dieu a fait pour lui, ce qu'il était. Il y a une jeune génération qui est sans père et mère spirituelle, ou qui ont des pères et mères spirituelles, mais qui ont besoin de mentors qui vont ouvrir leur vie et leur dire, tu ne peux pas imaginer. Vous savez, après 27 ans, il y a un paquet de monde ici à Nouvelle Vie, puis j'en fais partie, la cinquantaine et plus, de petits monsieur puis de petites madames qui ont l'air juste bien clean, qui ont l'air juste tellement, on dirait qu'ils sont nés dans Nouvelle Vie avec une Bible dans les mains. Est-ce que vous me suivez? C'est une des choses que je fais avec ma fille lorsqu'elle était adolescente, on parlait souvent, et j'y révélais, elle arrivait, elle me disait, « Ah, c'est un monsieur-là, il y a un monsieur qui avait des gentils avec elle, un placeur. » Puis elle disait, « Ah, lui, il est fin, il est tellement, t'es un bon gars, il a l'air tellement d'un bon gars. » Je disais, c'est la vérité, je connaissais son témoignage. Je disais, « Sais-tu comment est-ce qu'il a accepté le Seigneur, lui? » « En prison. » »« Ah! » prison, en prison. Ah, oh, lui, là, il a l'air straight. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, papa, lui, dans la vie? Tu sais, il est impliqué. Ben, je dis, lui, il est banquier, il travaille dans les banques, puis tout ça. Ah oui, c'est ça, je pensais. Il a l'air d'un gars super straight. Il ne peut pas nous comprendre, nous autres, les jeunes. C'est un super straight. Lui, tant qu'il était jeune, il a suivi un gourou aux Indes. C'est vrai. Il est peut-être à sa côté de toi. Regarde pas ma personne. Regardez-moi. Oh, elle est tellement fine. Elle est chrétienne. Elle doit être cinquième génération chrétienne. Elle est tellement fine. Elle sourit tout le temps. Elle est juste un sourire. Elle est tellement gentille. Elle ne peut pas comprendre, moi, ma vie, les parties. Là. Elle, je vous parle d'une histoire vraie, de nouvelle vie, un témoignage que je n'aimerais pas le nom. Elle était tellement une party girl que son chum, qui est maintenant un pasteur de nouvelle vie, qui sortait avec elle, à 6 heures du matin, après une nuit complète des discothèques, elle mettait sur son épaule puis partait avec parce qu'elle ne voulait pas s'en aller. Elle a tellement l'air juste spirituelle. Elle est toujours en train de louer, prier. Elle est remplie d'amour. On dirait qu'elle doit être cinquième génération chrétienne. Elle, c'était une polytoxicomane suicidaire, mais Dieu l'a libérée. Dieu l'a changée. Dieu a changé sa vie, puis il peut changer la tienne. Il y a tellement de jeunes qui ont besoin de père et de mère spirituelle, le mentorat, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, 1 Timothée 3, 13 à 15, s'acquièrent un rang honorable. Je t'écris ces choses afin que, avec l'espoir d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul dit, il n'y a pas, le vrai ministère est un ministère qui est biblique seulement s'il inclut le mentorat. Le mentorat, le ministère honorable est un ministère où je viens vers toi, où je me déverse en toi. Il y a une équation du royaume qui est extraordinaire. Ministère plus modèle. Le ministère avec des modèles et du mentorat produit une maison de multiplication de génération en génération. Et l'apôtre Paul s'est pas seulement approché par ouvert sa vie, mais s'est intéressé à la vie de Timothée. Il dira à Timothée, le Seigneur sait, j'ai une conscience claire, Timothée, tu sais que je n'ai pas juste appelé à venir servir, à remplir une case et à venir accomplir du travail avec moi. Tu sais que nuit et jour, je me suis souvenu, 2 Timothée 1, 3 et 4, continuellement toi dans mes prières, puis je me suis rappelé tes larmes, désirant te voir, afin d'être rempli de joie. L'apôtre Paul avait pris le temps d'écouter les larmes de Timothée. Qu'est-ce qui était ses combats, quels étaient son passé, quels étaient. Et il y a une puissance, il y a tellement une puissance transformatrice dans chacun d'entre nous, ouvrant nos cœurs les uns vers les autres, de génération en génération. Un ADN de rapprochement. Paul parlait à Timothée et voyait Timothée non seulement pour ce qu'il a été, mais ce qu'il est et où ce qu'il est aujourd'hui, mais ce qu'il était pour devenir. Me rappelant tes larmes, tes combats, mais il dira dans 1 Timothée 6, 12, pour toi, parlant au jeune Timothée. Puis vous lirez les deux lettres. Timothée était faible, il était timide, il était sans formation, il avait besoin de s'appliquer, d'étudier, il avait besoin de tellement de choses, il avait tellement de peur, il était rempli de crainte, et ça, continuellement, il s'éloignait de l'appel, s'éloignait des prophéties qui avaient été faites à son sujet. Mais lorsqu'il s'adresse à lui, Paul ne s'adresse pas à lui pour ce qu'il est ou ce qu'il a été. Il s'adresse à lui avec les yeux d'esprit, comme Jésus nous regarde. Il dit, pour toi, homme de Dieu, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Saisis, tu as fait une belle confession devant des témoins, mais maintenant saisis la vie à laquelle tu as été appelé. Littéralement, je lance cette vision pour moi-même et pour vous de dire, Seigneur, aide-moi à voir. Paul a refusé de définir ou de limiter Timothée à son âge, à sa jeunesse, à son inexpérience. Il a refusé de... Il parlait de lui, dit Timothée, toi, en ce qui te concerne, toi, homme de Dieu. Tu peux presque entendre Timothée dire, oh, tu ne sais pas comment j'ai des problèmes. Appelle-moi pas. Tu peux même pas imaginer comment je suis pas digne. Non. Homme de Dieu, celui qui a commencé une bonne œuvre en toi va l'accomplir. Homme de Dieu, femme de Dieu. Paul a refusé de le limiter à son âge, à son inexpérience, son manque d'instruction, à son look. Paul a refusé de le limiter à ses cheveux, à sa coupe de cheveux, à ses piercings, à ses tatouages, aux trous dans ses jeans, à ce qui est différent, à la musique qu'il écoute. Homme de Dieu, femme de Dieu, Seigneur de nous, des pères, des mères dans la foi, qui vont voir dans les cœurs et voir ce que les personnes peuvent devenir. Quelqu'un devrait dire oui. Paul a refusé de limiter Timothée à ses pires erreurs, à nouvelle vie, et parce que c'est la parole de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous ne définissons pas les gens, nous ne limitons pas les gens à leur gaffe ou à leur erreur. Nous croyons en leur meilleur. Nous ne limitons pas à leur passé, à leur perte, à leur problématique. Nous déclarons leur potentiel en Jésus-Christ, hommes et femmes de Dieu. Saisis la vie à laquelle le Seigneur t'appelle. Paul a refusé, rapprochement, Paul a refusé de laisser les différences générationnelles diviser lui et Timothée. Si j'avais le temps, si on prenait le temps de vous expliquer l'arrière-plan de Timothée, ce qu'on sait de lui par les Écritures, de sa mère croyante, mais de son père grec, et le père est absent dans le portrait, toute la culture de Timothée, la différence d'âge, la différence de background, la différence de culture, de foi, avec Paul, le pharisien parmi les pharisiens. Ils avaient tellement de choses en commun. En termes modernes, Paul et Timothée n'écoutaient pas la même musique chrétienne. Paul et Timothée n'aimaient pas les mêmes tunes. Paul et Timothée n'aimaient pas la même... Est-ce que vous suivez? Mais Paul était absolument à refuser, complètement refusé, et Timothée a refusé de laisser les différences l'empêcher de recevoir. Et Paul a refusé de laisser les différences religieuses qui ne sont pas celles de la Bible venir séparer. Paul n'était pas pour se diviser sur quelle musique on va avoir. Paul aurait refusé la guerre sur des choses qui sont secondaires. Paul aurait refusé, comme certains vont faire aujourd'hui, pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans, d'être en guerre et d'attaquer et de déchirer parce que la croix est sur le mur du côté au lieu du mur du milieu. Sur le mur du milieu est la parole de Dieu. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit dans le Nouveau Testament, et lorsque vous bâtirez une église, il y aura une plateforme, il y aura un stage, il y aura un système de son, et il y aura un mur arrière, et il faut que la croix soit là. Ce n'est pas où sur le mur qui compte, c'est où est la croix. C'est est-ce que la croix est dans ton cœur? Est-ce que la croix est dans ton pardon, ton amour, ta passion? Come on! Please! Paul a refusé de voir Timothée comme une menace qui me vole ma job, mon poste et mon titre. Non. C'est déversé en lui. Tu es un homme de Dieu. Timothée, saisis la vie à laquelle tu es appelé. C'est tellement beau. Lorsque je vois des leaders de notre église, il y a une photo qui va apparaître des leaders de la Ligue qui organisent des ministères, prêchent, enseignent, font toutes sortes de choses pour des centaines d'enfants de notre église. Mais savez-vous que presque chacun de ces leaders-là, personne ne le voit, personne ne s'est pas annoncé, c'est pas dans leur description de tâche, mais ils font du mentorat avec des jeunes. Avec des garçons, avec des filles. Cette semaine, je passais dans le bureau, puis il y a quelqu'un qui me disait, Laura, qui est là, Laura Galland, elle fait du mentorat avec ma nièce. Se déverse en elle. Hier, c'était tellement beau, il y avait 100 jeunes adultes qui étaient dans la salle. On était ensemble, j'étais avec pasteur Ben Nutten et son épouse Sophie, qui ont été pasteurs des adolescents pendant des années ici, pendant ados, là, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et on était dans la salle, puis on était tous les deux tellement émus parce que la grande majorité de la salle qui était là, qui sont maintenant des jeunes adultes qui bâtissent déjà et qui vont bâtir Nouvelle Vie, étaient des adolescents de 12, 13, 14 ans qu'il a mentoré lui et son épouse avec leur équipe. Pouvez-vous imaginer si chacun d'entre nous disait, « Seigneur, je veux que tu te serves de moi afin qu'il y ait ce rapprochement, ce mentorat, ce développement pour l'avancement de génération en génération. » Dites un grand « Amen » ce matin. Ça prend un rapprochement et notre ADN intergénérationnel se fait alors que nous reconnaissons et que reconnaître afin de pouvoir rejoindre une multitude de génération en génération. C'est la dernière pensée. L'apôtre Paul dit pour que l'ADN intergénérationnel s'accomplisse, il faut que les Pauls, il faut que les matures, les pères, les mères dans la foi, doivent reconnaître, il faut reconnaître afin de rejoindre la multitude, doivent reconnaître ce que les Timothées vont apporter. Paul dira à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et la raison pour laquelle il le fait, c'est que tous les historiens savent qu'à cette époque-là, les anciens dans les milieux religieux méprisaient les jeunes. Reste à ta place, tu n'as pas un mot à dire, fais juste servir, fais juste essayer de les écraser le plus possible. Et l'apôtre Paul risque d'offenser certains, mais se lève et dit, Timothée, s'il va y avoir un défenseur de ta jeunesse, que tu peux servir Dieu à un jeune âge, ça va être moi, que personne ne méprise ta jeunesse. Et est-ce que je peux entendre ce matin un cri à l'Église Nouvelle Vie d'hommes et de femmes qui disent, dans cette maison, dans ce royaume, dans cette maison, il n'y aura pas de mépris pour ces jeunes hommes et ces jeunes filles. Nous allons les aimer, les appuyer, les cultiver, les intercéder, les prier, les encourager, les aimer et les relâcher, leur faire la place. Voulez-vous tout le monde applaudir, s'il vous plaît? Mais il y a une reconnaissance que les Pauls doivent reconnaître tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Et les Timothées doivent reconnaître qu'ils doivent continuer à apprendre ce qu'ils vont apporter, mais à apprendre. Dans le même souffle que personne ne méprise ta jeunesse, mais Timothée, sois un modèle. Tu es appelé à être un modèle toi aussi. Alors, il faut que tu t'appliques. Un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi. Alors, il faut que tu t'appliques. Il faut que tu ne négliges pas. Il faut que tu te donnes tout entier et que tes progrès soient évidents devant tous. Cette loi du royaume, c'est que ceux que personne ne doit mépriser doivent continuer à être mentorés. Tu es une jeune personne, la parole de Dieu, tu es dans une église qui ne méprise pas la jeunesse. Tu es dans une église qui va honorer, qui va tout s'investir en toi pour te développer. Mais chacun d'entre nous, quel que soit l'âge, avons besoin d'avoir cette humilité de dire, j'ai tellement de choses à apporter, mais j'ai encore tellement de choses à apprendre. Il y a eu un « Amen » à ça, alors je vais le répéter. J'ai tellement de choses à apporter. Merci, lui, il me dit toujours « Amen ». On voyage ensemble, on fait la tournée ensemble. Alors moi, je prêche, je lui dis « Amen ». J'ai tellement de choses à apporter, mais nous avons tous tellement de choses à... Amen. Il dit aux jeunes, il dit au Paul, à tous ceux qui sont plus matures, que personne ne méprise, il dit à Timothée, il faut que tu continues à apprendre. Mais il dit aussi au Timothée, tu dois reconnaître ce que les pères et les mères dans la foi peuvent et ont accompli. Ne traite pas durement un ancien, ne traite pas rudement, ne méprise pas, ne néglige pas, ne minimise pas ce que ceux qui ont marché en arrière devant toi peuvent t'apporter. Ne méprise pas la jeunesse, nous avons besoin les uns les autres. J'ai souri et en même temps, c'était rigolo, mais j'ai lu sur un article cette semaine que la baisse des ventes de thon en conserve est de 40 % dans les derniers 20 ans dans le monde. Dans les derniers 20 ans, les compagnies de thon croient que la baisse de 40 % des ventes, le thon est encore le même, et la canne aussi, est reliée au fait que les milléniaux ne veulent pas se donner le trouble d'ouvrir une boîte de conserve de thon. Le vice-président, c'est sérieux, le vice-président marketing de Starkist, Tuna, a dit « Beaucoup de milléniaux et de X n'ont même pas d'ouvre-boîte dans leurs apparts ou leurs maisons. » Alors, je vais faire le test ce matin, voir si dans le groupe des milléniaux qui est ici, est-ce que vous savez comment ouvrir une canne? J'essaie d'en trouver un qui a l'air le moins... Parce que mon illustration ne marche pas s'ils sont capables. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la gang que c'est clair qu'il ne sera pas capable? Parce que vous pouvez me pointer quelqu'un dans la gang en ce moment qui va... Caleb, tu sais. Caleb peut chanter, peut faire n'importe quoi, mais il n'est pas capable d'ouvrir une boîte de thon. Et toute la reste de l'assemblée, tous les Paul, les pères et les mères dans la foi disent « Il n'est pas capable d'ouvrir, je te dis, les milléniaux, pas capable d'ouvrir une boîte de thon. » Alors, je vais demander maintenant à Luc Poirier de poster une story sur Instagram. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de chaque génération pour bâtir le royaume de Dieu. C'est la personne près de vous, je ne peux pas croire qu'il a parlé d'une canne de thon. C'est ça quelqu'un près de vous. Notre ADN est un ADN qui doit être renouvelé pour reproduire un ADN où nous devons nous rapprocher, partager nos vies les uns avec les autres, où nous reconnaissons que nous avons besoin de toutes les générations pour rejoindre toutes les générations. J'ai commencé le message avec ce passage que Dieu m'a donné et a donné maintenant à toute notre leadership de notre Église il y a maintenant plusieurs années. Avez-vous compris ces choses, dit Jésus dans Matthieu 13, 51. Oui, répondirent-ils. C'est pourquoi le serviteur sage, à cause de ces choses, le serviteur sage et maître de la moisson qui comprend le royaume de Dieu, des cieux, sait qu'il doit puiser des trésors, il doit tirer des trésors essentiels, ceux qui sont immuables, qui ne changeront pas et qu'aucune modernité ne doit nous voler. Mais il doit aussi tirer des trésors nouveaux, de la créativité, de la nouvelle génération, de nouvelles directions, de nouveaux exploits que Dieu va nous donner ensemble. Avez-vous compris ces choses? Oui. C'est pourquoi? C'est à cause de ces choses. Quelles sont les choses dont Jésus parle? À chaque fois que vous avez des questions, vous avez un texte comme celui-là, vous avez besoin de vous rappeler qu'un texte hors de son contexte devient un prétexte. Alors, si on lit auparavant, Jésus a dit, est-ce que vous comprenez ces choses? Oui, c'est à cause de ces choses qu'il faut absolument, que c'est si grave, si important, si vital, si question de vous de mort, de puiser du trésor ancien et du trésor nouveau. Quelles sont ces choses? Vous lirez Matthieu 13. Jésus enseigne sur la parabole du semeur. Il y a une semence qui est semée Il y a un combat spirituel pour chaque personne. Puis à cause de ces choses, nous devons tout donner. Il y a des trésors cachés. Il y a les perles de grand prix que tu lâches, tout abandonnes, tout, tu consacres tout pour la retrouver, les personnes, les âmes. Et là, juste avant, c'est les pêcheurs d'hommes et la fin de toutes choses. L'apôtre Paul dira à Timothée, c'est une parole certaine, dernier verset d'avant-midi, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons et nous combattons ensemble, toutes les générations, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Pourquoi est-ce que nous appelons si passionnément tous les jeunes leaders à venir servir avec nous? Parce qu'il est le sauveur de tous les hommes et nous avons besoin de votre génération pour atteindre cette génération. Pourquoi je demande aux pères et aux mères dans la foi et pourquoi je demande à chacun d'entre nous depuis 27 ans de refuser de juste avoir une église confortable où toutes les affaires sont pour moi comme moi j'aime et qu'on est bien ensemble et qu'on se fait du bien? Parce qu'il est le sauveur de tous les hommes. Et nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. Nous sommes ici pour les gagner. Pourquoi est-ce que nous appelons de sortir d'une mentalité de consommateur chrétien qui vient consommer les prédications de la musique du worship et retourne sans jamais avoir d'influence sur qui que ce soit? Parce qu'il est le sauveur de tous les hommes. Et alors que nous allons nous déverser les uns dans les autres, de génération en génération, alors seulement allons-nous atteindre cette génération. Nous sommes à un moment, alors que les musiciens s'approchent, nous sommes à un moment de l'histoire de Nouvelle Vie qui est unique. Jamais n'avons-nous eu autant de gens à servir, jamais n'avons-nous eu autant de croissance, de baptême et de multiplication en multisites. Priez pour nous lorsqu'on vous parle de Nouvelle Vie, Drummondville, c'est cette année que ça va prendre place, mais on a besoin des miracles de la part de Dieu. Parce que déjà, nous savons que le premier dimanche de Nouvelle Vie de Drummondville, lorsqu'on va commencer, il va y avoir entre 250 et 300 personnes. On a besoin de trouver une salle. Déjà, le premier dimanche de Nouvelle Vie de Drummondville, nous allons être la plus grande église évangélique dans l'histoire de toute cette région-là, 100 000 habitants autour. Nous avons besoin d'un bâtiment de 400-500 places. Ce n'est pas facile à trouver et à financer à Drummondville. Et par-dessus tout, nous avons besoin de serviteurs, nous avons besoin d'hommes et de femmes, nous avons besoin de multiplier. Lorsqu'on parle et on applaudit pendant une minute sur Nouvelle Vie, la prairie qui est maintenant à une deuxième réunion, 600 et presque 700 personnes certaines semaines, il y a une multiplication. Nous allons, je vous déclare par la foi, je vous prophétise que dans la prochaine décennie, j'ai sur mon cœur, nous allons implanter une dizaine d'églises à Nouvelle Vie aux quatre coins de cette nation. Nous avons besoin de chaque génération. On a terminé en regardant un petit clip. C'est très simple, mais c'est un clip d'une compagnie d'aviation KLM. Mais il y a une image qui est forte de trois générations. Vous avez trois générations. Vous avez la grand-maman, la maman et la fille, ou la mère et la fille, la petite fille, et qui, littéralement, alors que la deuxième génération entre et marche dans les souliers de la précédente, que non seulement il y a une multiplication, mais que le futur, chaque génération va plus loin que la précédente. Et le commercial se termine avec « afin que nous puissions continuer à bâtir ensemble ». Et ce matin, alors que vous regardez ce petit clip tout simple, laissez l'Esprit de Dieu dire « Seigneur, viens, je veux prendre ma part, je veux m'élever moi aussi, je veux servir, je veux m'offrir, afin que tu puisses agir en moi et à travers moi, de génération en génération, toi, le sauveur de tous les hommes. » Ce que j'aime de cette vidéo, c'est que la première génération, c'est une agente de bord. La deuxième, elle est chef de section. Et la troisième, c'est elle qui est la pilote. J'aimerais dire que je crois de tout mon cœur que les prochains commandants et pilotes du royaume de Dieu sont déjà assis ici à l'Église Nouvelle Vie. Ils sont là. Ils ont 18, 20, 25, 30. Et par la grâce de Dieu, ils vont aller encore plus loin que nous. Ils vont accomplir encore plus que nous. Alors, j'ai un appel particulier à la première réunion. C'était très, très puissant. Nous allons chanter ce chant magnifique qui a été composé ici, à la maison, de génération en génération. Et voici l'appel qui est sur mon cœur. J'ai invité tout le monde à se lever ensemble en présence de Dieu. Voulez-vous faire cette faveur juste de répondre à cet appel? J'aimerais demander à toutes les personnes de 40 ans et moins dans la salle. Non, il y en a que je sais que ça fait 15 ans que vous avez 40 ans. Que vous avez 39. Alors, mais toutes les personnes de 40 ans et moins dans la salle, voulez-vous me faire cette faveur? On veut prier avec vous et pour vous dans un moment de prière très spécial. Je veux demander à tous les 40 et moins, voulez-vous vous approcher, vous avancer maintenant ici à l'avant et vous êtes jeunes et vigoureux, avancez vite. Venez-vous-en en courant et pendant qu'ils s'avancent, avancez ici et venez me rejoindre ici au milieu et tournez, regardez à l'Assemblée. Et alors qu'ils s'avancent, est-ce qu'on peut les applaudir ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir les 40 et moins? Est-ce qu'on peut leur dire, on est là? Non, non, plus que ça, on parle pas d'un petit applaudissement mécanique. On parle de Seigneur, tu veux te servir d'eux. Seigneur, je vais me déverser en eux. Seigneur, ils sont importants, ils sont beaux, ils sont précieux. Seigneur, c'est ton Église. Non, pas l'Église de demain, c'est l'Église d'aujourd'hui. 40 ans et moins, regardez-les, nouvelle vie. 40 ans et moins, 40 ans et moins, applaudissez-les. Maintenant, tous les 40 et plus qui est à l'arrière, voulez-vous dire à quelqu'un à côté de vous, aucune retraite à nouvelle vie. Dites ça à quelqu'un à côté de vous. Il n'y a pas de retraite. Chacun, nous allons servir, nous déverser. Alors, donnez-moi cette faveur. Ils ont été obéissants, se sont avancés. Je vais demander à tous les 40 et plus de vous approcher et de venir prier pour eux. Approchez-vous. Venez. Venez rapidement et venez prier avec eux et eux vont prier avec vous. C'est un moment divin. C'est un moment prophétique. C'est un moment annonciateur. Nous disons, allez, venez de partout à travers la salle. Venez trouver un homme, une femme qui est ici à l'avant. Venez trouver un jeune homme, une jeune femme qui est ici à l'avant. Venez prier ensemble. Et nous allons chanter ensemble, nous allons prier ensemble. Lorsque vous arrivez, commencez à prier. Et les jeunes, priez aussi pour ceux qui s'approchent vers vous. Venez. Venez. Allez, approchez-vous. Vous n'êtes pas en train de prendre une marche au parc La Fontaine. Approchez-vous. Venez prier. Venez vous placer les mains. Seigneur, mon Dieu, viens nous unir, viens nous souder de génération en génération. Viens faire ton œuvre dans les vies, dans le nom de Jésus. Priez les uns pour les autres, de génération en génération.
Merci de vous être joints à nous pour le message d'aujourd'hui. On espère que ça vous a encouragé. Si vous avez à cœur de nous aider à diffuser des messages comme celui-ci à chaque semaine, n'hésitez pas à nous supporter en vous rendant à don.nouvellevie.com. Soyez bénis et à très bientôt.